Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en cette rentrée pour Bretagne 5 est Pierre-Yves Cadalin, des députés LFI de la deuxième circonscription du Finistère, la circonscription de Brest, je le dis pour nos auditeurs lointains. Et il est avec nous en direct dans le studio du Totem, studio encore provisoire. Voilà, on en redira un petit mot. Mais ça, c'est une autre histoire radiophonique. Là, on va parler de politique ce matin. Bonjour, Pierre-Yves Cadalin.
Bonjour à vous.
Alors, quand je disais on va parler de politique, hier soir, on a vu la composition du nouveau gouvernement. En tout cas, les premiers noms ont été livrés par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. On a attendu la rupture et la rupture n'est pas venue. J'imagine que c'est votre analyse ce matin.
Oui, alors d'abord, de nous gâcher notre dimanche avec une annonce pareille qui est particulièrement grave compte tenu du contexte politique actuel, car personne n'attendait de Sébastien Lecornu qu'il propose une rupture avec quoi que ce soit, puisqu'il incarne lui-même le cœur absolu du macronisme, la cohérence de cette politique économique qui a fait tant de mal au pays. Mais la provocation que constitue un certain nombre de noms et le fait que 12 ministres, parmi ceux annoncés, eh bien, siégeaient déjà au gouvernement, que Bruno Le Maire, que Éric Woerth, on se demande même s'ils n'ont pas proposé à Nicolas Sarkozy, avant qu'il aille en prison, de rejoindre cette fine équipe. Et en réalité, tout cela donne un sentiment de pagaille généralisée. Voilà tout de même plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'il y a une petite musique, parfois, qui dirait que la France insoumise est un facteur de désordre dans le champ politique actuel. Mais lorsqu'on a notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui accepte d'intégrer le gouvernement, et qui, 2 heures après, convoque sa direction pour ce matin, en fin de matinée, la direction des Républicains, en disant que ce n'est pas normal, que ce gouvernement est un scandale, etc., qui sème le chaos? Qui est un facteur de pagaille? Bruno Retailleau. La façon dont il s'est comporté hier est une façon complètement irresponsable et il se comporte lui-même et de façon très nette comme un agent du chaos. Chaos par ailleurs lié très décisivement à Emmanuel Macron et il est clair que s'il y a bien un signal envoyé hier par la nomination de ce gouvernement, c'est qu'Emmanuel Macron doit partir le plus vite possible.
C'est plutôt un gouvernement d'Emmanuel Macron qu'un gouvernement de Sébastien Lecornu.
Ben, disons qu'il n'y a pas de différence entre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, que Sébastien Lecornu assume tout à fait d'être le cercle rapproché, la première garde du président de la République. Et c'est la première garde, ce seront aussi les derniers qui resteront autour de lui lorsqu'il devra prendre cette décision de démissionner, puisque c'est bien la pente qui est prise et c'est bien, quel que soit le déni dans lequel il se trouve le président de la République. On me disait l'autre jour qu'il espérait peut-être une réforme constitutionnelle pour le département et territoire d'outre-mer d'ici à la fin de l'année, qu'il y avait une fenêtre. Ah bon? Mais où est-elle cette fenêtre? Il ne comprend pas qu'il a perdu les élections, qu'il a perdu 2 législatives, qu'il a perdu les européennes et qu'il y a une majorité de Français considérable. Non seulement pour qu'il s'en aille, mais pour qu'on change de politique, parce que c'est bien le fond du problème, vous voyez. Là, cette semaine, je suis allé soutenir des soignantes et des soignants avec le personnel administratif d'une clinique à Brest, mais le niveau des salaires, les conditions de travail, la façon dont, y compris le management, d'une certaine manière, met les gens en grande situation de souffrance, tout cela est insupportable, et cela doit s'arrêter. Donc d'ailleurs, j'en profite ici à votre micro pour dire qu'il y a une caisse de grève à la clinique Pasteur, donc pour les personnes qui, là, entament aujourd'hui leur 5e jour de grève reconductible.
Alors, on va parler tout à l'heure aussi de la situation économique, mais puisque vous parlez de la santé, tenez, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous aviez l'idée de déposer un texte de loi par rapport au parking, justement, des hôpitaux, ou plutôt des lieux de santé, qui deviennent le plus souvent payants, justement pour essayer de compenser ce manque financier, finalement, de l'hôpital.
Oui, alors c'est une crise qui est produite, c'est-à-dire que le manque de ressources des hôpitaux et des établissements publics de santé en général est organisé par la multiplication à l'infini des exonérations de cotisations sociales qui caractérisent la politique économique menée ces dernières années. Et cette situation-là, effectivement, met les hôpitaux en situation de difficulté financière. Ce qui a provoqué, comme vous le dites, le fait que dans trois quarts des parkings des hôpitaux de France sont payants.
Mmh.
C'est énorme, c'est considérable, et en réalité, c'est un scandale absolu. Personne n'est d'accord avec cela, parce que si vous allez voir un proche qui est malade, si vous allez voir un ami qui est mourant, et qu'on vous dit, attendez, il faut payer, et puis il va falloir payer tous les jours.
Mmh.
Il y a des gens qui se trouvent à payer des 200, des 300 euros par mois, lorsqu'ils vont régulièrement voir leurs proches. Tout le monde sent bien que c'est inhumain, c'est impossible. Donc il faut mettre fin à cette aberration. Je suis effectivement rapporteur d'une proposition de loi avec mes collègues Raphaël Arnaud et Sandrine Nosbé, pour mettre fin au caractère payant des parkings, pour qu'ils soient gratuits totalement. Et cette proposition de loi sera discutée lors de la niche parlementaire de la France Insoumise, c'est-à-dire la journée qui est consacrée à nos propositions pour l'ordre du jour.
Alors il y a aussi ces vice-présidences. Alors là, je reparle de politique. Ces vice-présidences à l'Assemblée nationale qui ont été revues, on va le dire comme ça, avec l'entrée à nouveau du Rassemblement national de vice-présidents, enfin vice-président, une vice-présidente. On a entendu la France insoumise se braquer, se mettre en colère en disant voilà, ce n'est pas normal. Comment être perçu au niveau du public lorsque, effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national? On risque de vous accuser un petit peu de faire de l'obstruction.
Il y a un an, il y avait un consensus assez large pour établir ce qui s'était appelé le cordon républicain ou quelque chose de cette nature, pour dire effectivement l'extrême droite dans ce pays, elle est porteur et d'un héritage et d'une politique raciste, et d'une vision de la société française fondée sur l'inégalité que nous ne pouvons à aucun moment accepter et qu'aucun républicain ne peut accepter. Cela, c'était l'état d'esprit qui avait conduit à ce que le Rassemblement national ne siège pas au bureau de l'Assemblée nationale. Et là, en un an, on se demande bien ce qui a changé. Tout d'un coup, Yael Braun-Pivet et l'ensemble des macronistes se disent « Ah bah si, on n'a qu'à négocier avec le Rassemblement national, on les fait rentrer au bureau, et pire que ça !» Je le dis, parce que ça passe un peu de loin, parce qu'on voit ça de loin, et ça fait un peu affaire interne de l'Assemblée nationale. Mais il y a eu un accord de portée globale entre le Rassemblement national et les macronistes, c'est-à-dire deux vice-présidences pour le RN, contre un certain nombre de présidences de commission pour les macronistes. Je siégeais moi-même en commission, on s'est rendu compte d'être stupéfaction que le RN ne présentait pas de candidats dans la plupart des commissions, et votait comme un seul homme pour les candidats macronistes. Donc, je veux dire, on est à front renversé de ce que les Français ont voté il y a un an. Ils ne voulaient pas de l'extrême droite. Et les macronistes, pour refuser, comme d'habitude, de partager les richesses, pour continuer leur politique de malheur, ils préfèrent pactiser l'extrême droite qu'en fait reconnaître le verdict de la démocratie.
On voit quand même aujourd'hui le Rassemblement national prendre une place importante dans la vie politique française. Depuis les dernières élections en particulier, on voit aussi beaucoup de voix qui s'élèvent contre LFI en pointant du doigt. Alors, les dernières en date, c'est les accusations d'entrisme islamiste, avec la parution d'un livre, Les complices du mal, un livre enquête d'Omar Youssef Souleymane. C'est un journaliste syrien qui est réfugié en France. On voit beaucoup d'attaques vis-à-vis de LFI. Comment vous vivez ça de l'intérieur?
Ces attaques, elles se sont multipliées effectivement ces dernières années, elles sont insupportables et elles dénotent de la part de ceux qui les formulent une absence de jugement qui est particulièrement grave, parce que assimiler, au moment où l'extrême droite monte un peu partout dans le monde, assimiler la gauche humaniste, émancipatrice, fondée sur l'égalité à l'extrême droite, c'est prendre de très gros risques. Et tout de même, l'Europe a traversé suffisamment de tragédies au XXe siècle pour ne pas souhaiter les répéter à l'infini. Et lorsqu'on parle effectivement de ce pseudo-entrisme islamiste ou je ne sais quoi, comment ne pas imaginer, comment ne pas penser au procès qui était fait continuellement au mouvement socialiste et communiste dans les années 30 en judéo-bolchevisme. Aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme. Mais c'est insupportable. Est-ce qu'on peut au moins essayer d'installer le débat sur des bases rationnelles, sans supposer je ne sais quel entrisme ou quoi? Quand vous écoutez effectivement la personne qui a écrit ce livre-là, il dit « Ah oh, j'ai aperçu quelqu'un dans une manifestation avec quelqu'un d'autre ». Ah ça, c'est de l'investigation. Le grand limier.
Justement, qu'est-ce qui fait finalement que LFI soit attaqué? C'est les prises de position de certains membres de LFI, c'est le contexte politique actuel qui a beaucoup changé. Comment vous l'analysez?
Pierre Gattaz, qui est l'ancien patron du MEDEF, l'a dit très clairement. Il a dit Mélenchon est plus dangereux que Marine Le Pen. Parce que Pierre Gattaz renoue avec l'histoire de son organisation, c'est-à-dire du grand patronat, qui disait déjà mieux vaut Hitler que le Front Populaire dans les années 1930. Et en réalité, ils en sont toujours là. Notre programme prévoit par exemple l'augmentation de 15% du SMIC, la sixième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans. Ce n'est pas non plus la nationalisation de l'ensemble des entreprises du pays. On est sur un programme de partage, de solidarité, pour que ça aille un peu mieux, pour que les services publics soient davantage financés. Mais ça, même ça, pour eux, c'est beaucoup trop. Et donc, effectivement, ça provoque des réactions de résistance de la part de la grande bourgeoisie, qui se manifeste par une hostilité croissante à notre égard dans certains médias. Et puis, il faut bien voir qu'il y a aussi des projets, notamment de rachat de certaines entreprises médiatiques, qui ont conduit à mettre cette ambiance-là. Lorsque Vincent Bolloré est à la fois propriétaire de BVA, de CNews, d'Europe 1 et du JDD, il a un institut de sondage, une radio, une télé et un journal, et il peut ensuite installer ses propres débats.
Et donc, selon vous, il y a un débat qui est faussé justement par, j'allais dire, ce fourmillement médiatique.
Ah oui, complètement. Et je suis, par exemple, pour interdire ce type de concentration de la propriété des médias dans les mains d'un seul ou d'une poignée de milliardaires. En France, c'est 90% des médias qui sont détenus par quelques milliardaires. Donc, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas normal, et effectivement, c'est un enjeu extrêmement important pour la démocratie. À la fois, la démocratie, quelque part, elle tient sur deux piliers. C'est un système d'éducation qui fonctionne bien, qui permet l'esprit critique, la réflexion, l'échange, et de l'autre côté, tout au long de la vie, qu'on puisse être bien informé correctement par les médias, et donc aussi que les journalistes aient des bonnes conditions de travail, qu'ils soient bien payés, qu'ils aient des contrats corrects, et qu'ils ne soient pas sous l'influence ou sous la domination d'un certain nombre de personnes dont le seul intérêt est de sauver leur argent, ou alors de se prêter à leur lubie idéologique, parce que chez Vincent Bolloré, il y a et l'un et l'autre.
Faut supprimer le service public aujourd'hui, la télévision publique, la radio publique.
Pourquoi?
Parce qu'on a entendu parler quand même beaucoup de cette suppression.
C'est le débat tel qu'il est installé par l'extrême droite finalement et par une bonne partie de la droite dans le pays. Et c'est complètement hallucinant. Mm-hmm. Je veux dire, on peut imaginer des choses qui puissent permettre d'améliorer l'audiovisuel public, de faire en sorte d'y mettre des programmes peut-être aussi de plus de qualité. En tout cas, on peut avoir une discussion autour de ces enjeux-là, mais la question de la baisse de son financement ou de sa suppression est inacceptable et inenvisageable. On le voit bien dans des pays où l'ensemble du secteur médiatique est uniquement dominé par le secteur privé. À ce moment-là, le terrain de la discussion rationnelle parfois disparaît. Mmh. Absolument. Or, c'est très important lorsqu'on parle de droit international, lorsqu'on parle de la situation économique, lorsqu'on parle de la question environnementale aussi, dont on a l'impression que la presse a disparu des débats. Mais c'est important d'avoir une bonne information et de s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut un audiovisuel public de qualité. Donc il ne faut certainement pas le supprimer, il faut l'améliorer.
On a le danger peut-être de vivre ce qui se passe aux États-Unis avec une forme, on va dire, de mainmise du pouvoir sur certains médias, y compris privés d'ailleurs, où le président Trump décide qui sera à l'antenne ou pas à l'antenne. Ça peut être dangereux, ce genre de dérive.
Ah, complètement. Et la 5e République permet ce genre de dérive, puisque le président de la République a un pouvoir de nomination considérable. Tout ce pouvoir de nomination lui permet aussi d'avoir un contrôle indirect sur l'audiovisuel public. Et que la 5e République, par son versant autoritaire, pose un énorme problème. Je crois que le temps, à la fois du départ d'Emmanuel Macron, je l'ai dit, est venu, mais le temps de la 6e République avec lui. Parce que Emmanuel Macron incarne toutes les contradictions, les faillites de ce système-là, le fait qu'un homme seul peut se braquer contre un pays tout entier. Et donc, il faut pas parier sur le fait que, à chaque fois, les prochains seraient meilleurs, seraient plus sympathiques, seraient plus loyaux à la démocratie. Il faut se dire, construisons des institutions démocratiques.
Il faut tourner la page de la 5e République, il faut aller à la 6e République que vous appelez de vos voeux. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer le départ d'Emmanuel Macron, quelles que soient les conditions, tourne cette page?
Oui, moi je pense que si Emmanuel Macron s'en va, je souhaite qu'il s'en aille, je souhaite qu'il soit soit destitué, soit qu'il soit démis, enfin c'est-à-dire soit qu'il démissionne, soit qu'il soit destitué, et à ce moment-là, évidemment, ce sera évident pour tout le monde que la Ve République elle-même est entrée dans une crise qui est considérable. Donc oui, et il doit partir, des institutions plus démocratiques doivent lui succéder. Je prends un exemple, si on avait un référendum d'initiative citoyenne, ce que nous proposons dans le cadre de la Ve République, eh bien, les citoyens pourraient proposer des lois, abroger d'autres lois ou révoquer des élus à partir de la mi-mandat. Ce qui se serait passé aujourd'hui, c'est que si ce mécanisme avait existé, la réforme des retraites serait abrogée parce que personne n'en voulait, personne n'en veut toujours, et Emmanuel Macron serait déjà renvoyé à la maison. Parce que là aussi, personne ne veut plus de lui. Personne ne veut plus de lui, à la fois sur le fond, mais aussi sur ce qu'il incarne de mépris et finalement de violence symbolique qui nous est particulièrement infligée de façon affligeante.
Alors justement, la violence, elle est dans le débat politique, mais elle est aussi dans la rue. Et c'est le cas à Brest, on va prendre, puisque vous venez de Brest, Pierre-Yves Cadana, c'est le cas de Brest avec des agressions. Ça a été le cas de votre compagnon, d'ailleurs ça vous a touché de plus près sur fond d'homophobie. Et puis il y a eu cette attaque d'un bar il y a quelques semaines, attaque attribuée en un premier temps à l'ultra-droite, qui sera en fait une attaque de supporters brestois. Alors voilà, on n'a pas
encore... Non, c'est pas... Je me permets de faire la précision. Ce sont des groupes d'extrême droite qui, effectivement, il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont aussi supporters, mais ce ne sont pas deux éléments différents. C'est-à-dire, il y a un petit groupe qui s'appelle Section Ouest, qui a des liens et des connexions avec un groupe qui, en fait, se recoupe complètement, lequel s'appelle le Talion, et qui sont des groupes fascistes. Et ces fascistes, effectivement, ont mené un certain nombre d'attaques cet été et de façon très régulière et répétée. C'est-à-dire qu'en juillet, il y a eu des personnes qui se sont fait agresser par ces étés noirs, par ces étés afghanes. Étant afghanes et sans papier, elles n'ont pas porté plainte. Par la suite, c'est effectivement la France Insoumise, un certain nombre de militants de la France Insoumise, dont mon compagnon, vous l'avez dit, qui se sont fait attaquer en plein jour. En fin d'après-midi, alors qu'ils étaient en train de ranger une collecte de fournitures scolaires pour la rentrée, au bénéfice du Secours Populaire. Et ensuite, un autre petit groupe qui s'est trouvé être attaqué dans la nuit, alors qu'il faisait évacuer à ses occupations, il faisait un peu la fête. Et voilà qu'effectivement, une terrasse de bar où des gens se reposaient tranquillement de leur semaine, eh bien, c'est fait... vraiment violemment attaqué. Vous avez sans doute vu les images, mais elles sont particulièrement impressionnantes. Donc j'espère que ce groupe va être mis rapidement hors d'état de nuire, que les responsables seront retrouvés et jugés. Et cela me semble important pour que Brest aussi puisse continuer à être la ville joyeuse qu'elle est.
Et le Stade brestois, je le précise, s'est désolidarisé évidemment de ses supporters. Hein, voilà, c'est important de le dire aussi. Il y a aussi la politique internationale et le projet de paix de Donald Trump avec la flottille qui se rendait à Gaza, qui a été interceptée par l'armée israélienne. Plusieurs Français sont encore retenus. Ils vont être expulsés dans la journée, nous dit-on, dont la députée Marie Messmer, qui est venue souvent au micro de la matinale. Est-ce que ça vous a choqué, cette interception, ou est-ce que c'était prévisible?
Ça m'a bien entendu choqué, et moi je veux saluer le courage de toutes celles et tous ceux qui sont, dont nos parlementaires, mais également je pense à un infirmier brestois, Antoine Piron, qui est sur la flottille, qui est un peu plus en arrière, mais qui va arriver aussi dans les eaux. Évidemment, ce kidnapping est non seulement choquant, mais il est contraire au droit international. Il est contraire au droit international, et ça, il faut l'affirmer très clairement. C'est-à-dire que des personnes ont été interceptées alors qu'ils étaient en haute mer, sur des eaux qui ne sont pas souveraines. Et par ailleurs, les eaux au large de Gaza, on vient tout juste de reconnaître l'État de Palestine. Et donc, les eaux qui sont juste en face de Gaza, ce sont les eaux palestiniennes. À quoi cela sert-il de reconnaître un État si on ne lui reconnaît pas la pleine souveraineté, ce qui est vraiment la caractéristique principale d'un État, hein, population, gouvernement, territoire. Bon, bah, voilà, je veux dire, le fait, c'est que le territoire maritime palestinien est palestinien, point. Et Israël opère militairement comme s'il en avait pleinement le droit. Et je rappelle que ce gouvernement est en train de commettre un génocide, et c'est pour ça que je salue vraiment le courage des membres des équipages de la flottille de la Liberté, parce que en allant là-bas, en prenant les risques qu'ils ont pris, ils sont à la fois notre honneur à toutes et tous et le rappel que la solidarité humaine existe. Et elle existe d'autant plus nécessairement que la situation est extrêmement grave et je regrette que le Quai d'Orsay n'ait pas agi plus vite. Effectivement, on parle d'un certain nombre de Français qui seront libérés aujourd'hui, mais il faut tout de même rappeler que la Turquie et l'Italie ont agi beaucoup plus rapidement et que leurs ressortissants ont été libérés très vite. C'est-à-dire que le Quai d'Orsay a d'ailleurs publié un communiqué qui était relativement scandaleux, considérant que ben, finalement, en se rendant sur zone, voilà, c'est un peu en plus manquer de précision, ben, les membres de la flottille savaient bien à quoi... à quoi ils s'affrontaient et, donc et que la France se dégageait quelque part de sa responsabilité. Ça, ce n'est pas normal. La France doit pouvoir aussi parler haut et fort, être la voix du droit international et dire que, alors qu'elle vient de reconnaître l'État de Palestine, le génocide doit cesser immédiatement.
Est-ce que finalement Emmanuel Macron a eu raison de reconnaître l'État de Palestine? Ça a été beaucoup critiqué. Est-ce que c'est symbolique finalement ou est-ce que c'est vraiment le point de départ d'un processus de paix?
Non, c'est très important, c'est une victoire politique, c'est une première étape, mais la France a rejoint une cohorte considérable d'États qui le reconnaissaient déjà, hein, puisque je crois que c'est la France doit être le 148e pays à reconnaître la Palestine, donc il y avait vraiment beaucoup de monde à reconnaître d'ores et déjà la légitimité d'un État palestinien. Et effectivement, la situation telle qu'elle est posée... aujourd'hui, fait que c'était nécessaire, mais que désormais, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de prendre des sanctions contre l'État d'Israël pour que cesse le génocide sur la base du droit international, des décisions de la Cour internationale de justice notamment.
Alors Israël qui a promis d'arrêter le conflit, mais qui dit néanmoins pouvoir reprendre des opérations militaires s'il n'y a pas d'accord avec le Hamas, qui devra intervenir cet accord, s'il intervient en tout cas dans quelques jours. En tout cas, Donald Trump a donné le tempo. Est-ce que là aussi, finalement, une des clés, c'est Donald Trump?
Donald Trump aussi... aussi risible, aussi dangereux, aussi fasciste qu'il soit, reste le président de la première puissance mondiale. Et de ce fait, sur les questions de relations internationales, lorsque les États-Unis parlent, ils parviennent à certains moments à effectivement dicter le tempo des négociations. Ce qui semble être le cas là, il va falloir quand même bien regarder tout cela de très près, notamment voir quelles sont les conditions politiques de cet accord, parce que et là encore, la France, puisqu'elle vient de reconnaître l'État de Palestine, eh bien, devra prêter une attention particulière à ce que la souveraineté réelle des Palestiniens existe bel et bien, et que, notamment, on ne les empêche pas, comme j'ai pu lire dans la presse, qu'on ne les empêche pas, comme c'est considéré dans le plan de Trump, par exemple, de faire des recours fondés sur le droit international auprès de la Cour internationale de justice pour attaquer juridiquement Israël. Si on n'a pas le droit de faire ça, on n'est pas souverain.
Voilà, il y aura la paix, il y aura la suite, si je vous entends bien.
J'espère que la paix arrive le plus rapidement possible, mais effectivement, ensuite, il va falloir regarder les conditions politiques de cette paix. Parce qu'il y a des paix dont on est sûr qu'elles sont porteuses des conflits, des guerres à venir. Et là, je veux dire, pour construire les conditions d'une paix durable, déjà, je pense que cela démarrerait par reconnaître le fait qu'un génocide soit intervenu à une échelle qui est absolument terrible. On parle du massacre continu d'enfants. C'est plus de la moitié de la population de Gaza qui sont des enfants. Donc c'est absolument déchirant. Et effectivement, il faut que ça s'arrête très rapidement.
Un dernier mot, Pierre-Yves Cadalin, avant de conclure cet entretien. Je reviens sur la politique intérieure. Il y aura censure par LFI du gouvernement Le Cornu?
Absolument, il y aura censure, le gouvernement va tomber, Emmanuel Macron doit s'en aller, parce que s'il dissout et qu'ensuite on a des élections législatives qui ne vont pas forcément résoudre la crise politique, on va se retrouver dans le même point d'ici à un mois. Donc Emmanuel Macron doit nous faire gagner du temps à toutes et tous, il nous en a fait déjà que trop perdre, et il doit s'en aller tout de suite. Nous allons censurer le gouvernement et ensuite Macron doit s'en aller.
Il faut que le restant de la gauche, je pense au Parti Socialiste, vous suive là-dessus.
Ah oui. Oui, mais d'ailleurs, je crois que c'est bien parti pour.
Pierre-Yves Cadalin était avec nous, député LFI de la deuxième circonscription du Finistère, la circonscription de Brest. C'est pour ça qu'on a été un petit peu brestois ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Très belle journée.
Belle journée également.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.